dibujando el imaginario casero de Natal. Je répète totalement ce que
tu dis. Moi, c'est une compagnie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de rester fidèle à Radio Capi et nous sommes ensemble pour cet échange citoyen dans votre magazine Parole aux auditeurs. Il faudrait une conférence nationale pour la lutte contre la corruption en RDC. Cette proposition émane du livre consacré à la lutte contre la corruption en RDC paru le 27 août dernier à Kinshasa. Justin Kabongo, son auteur, estime que la question de la lutte contre la corruption ne constitue pas à ce jour la préoccupation majeure de la société congolaise, d'où la nécessité d'impliquer toute la nation dans une grande rencontre. Quels seraient selon vous les préalables pour une lutte efficace contre la corruption en RDC? Notre standard est ouvert au 081-800-6315 pour vos interventions en direct. Mais le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Ce magazine est mis en nom de par Hippolyte Kapanga, Julie Fezabongonda et au standard et à la réalisation. Pierrot et la Mégie vous les présentent sous la supervision de Julien Niamonique. Mesdames auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-800-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La lutte contre la corruption, on ne cessera jamais d'en parler et ce livre qui est paru ici à Kinshasa, c'était le 27 août dernier. Justin Kabongo, son auteur, estime qu'il faudrait aujourd'hui une conférence nationale pour la lutte contre la corruption en RDC, car la lutte n'est pas encore considérée comme une préoccupation pour l'ensemble de la société. Alors, pour vous, quelles sont les pistes de solutions les plus efficaces qui puissent permettre au pays de pouvoir s'en sortir et combattre ces fléaux? Notre numéro de téléphone a été déjà donné. Merci d'être avec nous. Kevin, vous êtes en Bandaka, dans la province de l'Équateur, et honorable Paulin Oudiane, vous êtes à Isiro. On vous garde en ligne, on va revenir à vous dans un temps. Le temps d'écouter Kevin qui est avec nous en Bandaka. Kevin, bonjour.
Allô, bonjour, je vous ai dit que je suis en Bandaka, je suis en vacances à Kinshasa.
Alors, vous êtes encore à Kinshasa, Kevin, merci d'être avec nous dans cet échange. Alors, pensez-vous aujourd'hui que la lutte contre la corruption doit passer, comme l'auteur de ce livre estime, par être considérée comme une préoccupation pour l'ensemble de la communauté?
Vous savez, hier, j'avais dit dans mon commentaire, je me suis montré un peu très pessimiste face à la question, parce qu'on dit d'organiser une conférence, une rencontre au cours de laquelle on va parler de la corruption pour trouver des solutions. Je vous dis que il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation en RDC pour la lutte contre la corruption. Il y a eu de voire même des sanctions. On a révoqué des agents, que ce soit au sein de l'administration publique, mais rien n'échange. C'est pourquoi j'avais dit dans mon commentaire qu'en RDC, il ne s'agit plus d'un problème de changement d'homme. Parce que nous sommes devant une génération déjà pourrie, parce que aujourd'hui, si on changeait même les hommes, ce serait chasser les corrompus et les corrupteurs, mais la corruption reste là. On ne chassera pas la corruption, c'est un peu très difficile. La corruption est devenue un modus vivendi aujourd'hui. Vous savez, moi je connais un cas, quand j'étais encore en Bandaka, un dossier de justice, où on a arrêté le cousin d'un ministre provincial, mais le magistrat qui faisait le dossier demandait le ministre, mais c'est aussi votre cousin, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez votre mission liée à la loi, vous n'avez qu'à poursuivre, vous n'avez qu'à préparer aussi pour sanctionner l'individu, mais vous vous demandez au ministre. C'est pourquoi j'avais parlé du phénomène de l'auto, ce que j'ai appelé l'auto-corruption ou le phénomène de la corruption gratuite. C'est-à-dire il n'y a même pas question de donner l'argent pour être corrompu, c'est-à-dire que de soi, on voit déjà que comme je suis devant l'autorité et que c'est son cousin, que c'est son frère, je n'ai qu'à me faire corrompre. Je donne également les cas qui est un peu très frappant, je ne sais pas, ça va vous étonner, les cas de la loi instituant la cour constitutionnelle, la loi instituant le fonctionnement de la cour constitutionnelle et ainsi de suite. Cette loi prévoit que le Premier ministre et le Président de la République sont jugés devant la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque ces deux justiciables ont commis des infractions et qui sont devant le juge, devant le parquet, près de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Président de la République reste encore Président de la République. Alors, tout en restant Président de la République, il est devant le magistrat. Alors que la Constitution dit que le Président de la République nomme et révoque les magistrats. Trouvez-vous ce que ça peut faire? C'est-à-dire que un beau matin, on peut se réveiller et le Président de la République dit: où sont les magistrats qui instruisaient les dossiers? On les révoque. Vous voyez ce que ça donne? C'est-à-dire que la corruption n'est plus question de changement d'homme ou quoi que ce soit. C'est pourquoi je vais vous donner une solution qui peut être un peu plus durable, c'est le renouvellement de la génération pourrie. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus se baser sur la jeunesse qu'on a maintenant, les inculquer des notions, des valeurs importantes, tenant compte de bonnes mœurs et tant d'autres, pour qu'on puisse renouveler un peu
les valeurs. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Kevin. Vous estimez que le problème de la lutte contre la corruption dans notre société, c'est pas une question des changements d'homme aujourd'hui, mais c'est le renouvellement des valeurs. Et ces valeurs, il faut les inculquer à la nouvelle génération, à la jeunesse, parce qu'il y a eu des campagnes, il y a eu des fonctionnaires qui ont été révoqués, des gens qui ont été arrêtés. Cela n'a pas amené aujourd'hui la lutte contre la corruption. Mais vous avez quand même évoqué le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. C'est très important. Merci beaucoup, Kevin. On est ici à Kinshasa avec Maître Ikonza. Et alors, pour vous, quelle est la part aujourd'hui de la justice dans cette lutte contre ce fléau, la corruption? Maître Ikonza, bonjour.
Bonjour, Thierry. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati. Je pense que la part de la justice, s'il faut en chercher, elle est grande. Elle est grande pour lutter contre la corruption. Mais le problème, c'est que dans notre pays, nous avons franchi toutes les étapes de la corruption. Et donc, nous avons toutes les formes de la corruption constatées par différentes organisations à travers le monde. Nous avons la corruption active, passive, nous avons la grande corruption, la petite. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gens limitent la corruption seulement pour la politique, les acteurs politiques, les gouvernants politiques et tout. Mais la corruption, c'est aussi dans les organisations privées, dans les entreprises privées. C'est un peu partout. C'est-à-dire le pays est maintenant sous l'emprise de la corruption généralisée. C'est pourquoi, même si on va peut-être rechercher la part de la justice dans la lutte contre la corruption, ce ne serait pas une gymnastique facile. Je ne voudrais pas ici peut-être accuser les acteurs de la justice, parce que moi-même je suis auxiliaire de la justice, mais à voir clair par rapport à cette situation, je crois que c'est un combat qui ne doit pas être trouvé solution aujourd'hui. J'ai suivi le premier intervenant quand il a dit qu'on doit inculquer aux générations actuelles un comportement tout à fait différent de celui qu'il y a. Mais je pense que les gens qui doivent inculquer ces comportements-là, comment eux-mêmes se comportent lorsqu'ils gèrent, par exemple, les biens de l'État, la chose publique, et même au sein de la justice. Moi, je ne peux pas faire de l'hypocrisie à travers dans cette émission, parce que tout le monde connaît comment ça se passe, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de l'administration publique, que ce soit dans la gestion du gouvernement, aussi bien au niveau national que provincial. Et même quand tout est démontré, prouvé que telle autorité a posé tel acte de corruption, il est difficile que cette autorité soit traduite devant la justice. Et l'intervenant qui m'a précédé a parlé de la Cour constitutionnelle pour peut-être des poursuites contre le président de la République et le premier ministre, mais il a oublié de dire que pour poursuivre le président de la République, la loi a créé un obstacle. Il faudrait passer par l'Assemblée nationale, une procédure. Et tout ça, ce sont des éléments qui frisent la corruption dans le pays. Et même quand on parle des avantages des parlementaires par rapport aux fonctionnaires de l'État, les députés nationaux, les sénateurs, qui se tapent la part du lion, leurs émoluments, les avantages, tout ça, c'est une forme de corruption, la grande corruption. hein, la corruption à haut niveau, et même dans des lois. On donne des avantages exorbitants et parfois inutiles, hein, à ceux qui gèrent peut-être une portion du pouvoir au sommet de l'État. Ben, les huissiers, les gens qui travaillent durement, hein, les fonctionnaires de l'État, et souffrent. Ils sont là seulement pour applaudir. C'est toujours une forme de corruption.
De corruption. Donc, alors, mais c'est comme vous avez dit, Maître Ikosa, vous estimez que le problème aujourd'hui, c'est pas en termes de qui doit faire quoi, mais le plus grand problème, c'est les modèles. Il n'y a pas de repères, il n'y a pas de modèles pour répondre à Kevin. Qui pourra inculquer ses valeurs à la jeunesse dès lors que la jeunesse n'a plus comme modèle et comme repère aujourd'hui dans la lutte contre la corruption dans notre société.
Eh bien, je pense que la question, si nous allons même nous réunir, comme l'auteur du livre a proposé dans une conférence, je ne sais pas qui en sera le modérateur ou l'orateur. Et même les intervenants, je crois qu'on pourra sortir à queue de poisson, parce que personne n'écoutera l'autre.
Il y a une forme de crise de confiance qui s'installe dans la société. Maître Ikosa, autour de cette question, parce que vous l'avez dit, que ce soit même les procédures d'examen de loi au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit même aujourd'hui d'autres lois, vous estimez qu'il y a déjà des mécanismes qui sont instaurés dans notre société qui ne peuvent pas faciliter, ou bien qui peuvent faire recourir à la corruption d'une façon voilée, et comme vous l'avez dit, et la corruption passive, que ça sera difficile aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de repères, il y a une question de méfiance qui s'installe. Merci beaucoup, Maître Ikosa. Nous allons à Isiro, honorable Paulin Odiane, vous êtes député provincial. Merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Bonjour mon frère, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capien.
Et vous avez eu quand même dans le fonction que vous occupez comme député provincial, mais aussi vous avez été député, ministre, vous êtes revenu encore de député. Alors quand on parle chaque fois de la lutte contre la corruption, on a tendance à se focaliser dans les domaines, soit de l'enseignement, soit dans les domaines politiques, et Maître Ikosa le disait tout à l'heure. Quelle est votre perception par rapport à cette question?
Bon, merci beaucoup pour la question. Je crois pour ma part que le problème de la corruption, c'est un problème, selon moi, qui est basé sur notre système politique. Donc, c'est le système politique qui favorise la corruption, les détournements et ainsi de suite. Et si vous suivez bien l'actualité, le ministre, l'ancien ministre de la Justice, lorsqu'il est arrivé aux affaires, il a décrété l'opération porte ouverte de la prison pour que tous ceux qui détournent l'argent de l'État, tous ceux qui sont dans la corruption puissent entrer dans cette prison. Mais il a été bloqué. Il était bloqué quelque part. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa logique, bien qu'il avait la bonne volonté. Le 23 juin 2015, lorsqu'il était alors conseiller spécial du chef de l'État, en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, il a déposé une plainte au parquet général de la République, au nom du chef de l'État. Et après le dépôt de cette plainte, lui, il a déclaré que la RDC enregistre chaque année plus ou moins 10 à 15 milliards de dollars de détournement. Et il est allé plus loin, il a dit, le chef de l'État a fait sa part, il a déposé sa plainte, il appartient maintenant à la justice d'accomplir la sienne. Et depuis tout ce temps-là, je ne sais pas si ces rapports étaient examinés ou s'est classé sans suite ou comment, je ne sais pas.
Mais rappelons quand même, honorable Paulin Odiane, rappelons quand même qu'autour de cette question, quand le conseiller Luzo Lubambi a évoqué les 10 à 15 milliards, il y a eu quand même des voix discordantes, il faut qu'on se le dise. Le Premier ministre avait estimé que les chiffres étaient surestimés, mais déjà là, c'est un problème. Si déjà au niveau du gouvernement, on ne pouvait pas reconnaître les chiffres proposés par les conseillers du chef de l'État dans la plainte, il sera difficile que la justice elle-même puisse aller de l'avant. Il y a eu même au niveau de l'avocat Gmal qui avait répondu pour dire que non, la justice est levée, et c'est pas de spéculation. Alors vous comprenez déjà qu'à ce niveau, la démarche elle-même ne pouvait pas aller plus loin pour avoir une action en justice concrète dès lors que les acteurs de la gestion du système eux-mêmes les contredisaient déjà sur la place publique, ce qui était proposé par les conseillers Luzo Lubambi.
Mais vous savez qu'il y a un ancien ministre français, des finances, dont j'ai oublié son nom, qui disait que lorsqu'il parlait de la fraude fiscale, il disait que même si on parvient à récupérer entre les mains des contribuables, les centimes qu'il n'a pas pu payer, si on parvient à récupérer ça, c'est déjà une chose. Mais ici, chez nous, le problème est au-delà. Raison pour laquelle je vous dis que c'est un problème de système politique que nous avons. Parce que ceux qui font, qui détournent plus, que ceux qui sont plus à la base de la corruption, ce sont nous. C'est nous, les hommes politiques. Parce que pour accéder à un poste politique, il faut corrompre. Pour devenir un gouverneur, pour devenir un ministre, pour devenir un directeur général d'une entreprise, il faut corrompre. Et quand on est là, on est obligé d'effectuer les opérations retour pour la personne qui vous appartenait. Donc il faut lui donner quelque chose, sinon vous n'allez pas résister là. Donc et le ministre du Zone, il avait déclaré même que la victime de la corruption, c'est la population. Et lui, il dit que la manifestation même des blanchiments des capitaux, c'est à travers les infrastructures et les immeubles qui pullulent dans la ville de Kinshasa et ailleurs, dans d'autres villes également. Et quand il a dit ça, est-ce qu'on a déclaré, parce que le chiffre de 10 à 15 milliards était un chiffre important, ou tout simplement parce que le système n'a pas voulu qu'on puisse aller jusqu'au bout. On peut se poser la question là-dessus. Donc le problème de la corruption ne réside pas dans des campagnes, tout ça, mais selon moi, ça réside dans l'inefficacité. Il y a l'inefficacité des mécanismes de lutte contre la corruption chez nous. Il y a faiblesse ou inefficacité des mécanismes de prévention et de la répression contre la corruption et les fraudes qui sont liées à la corruption. Donc si l'État s'engage fermement à lutter contre la corruption, on va mettre fin à ce système. Mais l'État n'a pas encore pu prendre une position claire et mettre même un fonds consistant dans le budget de l'État pour lutter contre la corruption. La justice ne peut pas lutter contre la corruption si on sait que cette justice n'a même pas un fonds nécessaire pour le fonctionnement. Parce que la corruption pour lutter contre ce phénomène, contre ce fléau, il faut avoir des moyens. Il faut utiliser tous les mécanismes possibles, utiliser des tierces personnes pour lutter contre la corruption et même aussi la justice. Vous savez que la justice est aujourd'hui sous le contrôle de certaines influences politiques ou financières. Donc, il n'y a pas de mécanisme aussi approprié. Quand on est nommé sur base des critères non objectifs, on est obligé de respecter la personne qui vous a nommé, sinon vous n'allez pas rester pendant longtemps dans cette
situation. Voilà. On va revenir à vous, honorable Paulin Ojani. Vous avez insisté sur la réponse de notre système politique. Quand on voit aujourd'hui la question à dépôt des responsabilités, que ce soit pour être élu, on se rappellera en 2011 qu'il y a eu des gens qui sont montés au créneau pour dire qu'il y a eu des députés qui ont été nommés. Cela veut dire qu'on a recouru à des voies détournées pour pouvoir accéder au poste de responsabilité. Alors, si vous fustigez les comportements de l'homme politique, ce qui veut dire que, Maître Licons a raison de dire qu'il n'y a pas de repères et de modèles sur lesquels la jeunesse peut être entraînée dans la lutte contre la corruption. Jérès, vous êtes à Bandonville. Bonjour, Jérès.
Bonjour, Monsieur Pierrot, et merci beaucoup pour la parole.
On vous écoute, Jérès.
Ok, merci beaucoup. Et permettez-moi de pouvoir rappeler d'abord que la corruption n'est pas un virus congolais. Mais c'est un virus universel, c'est-à-dire aussi national à l'abri de la corruption. Alors cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas combattre la corruption. Mais pour bien combattre la corruption, les problèmes au niveau de la...
Dommage qu'on a perdu Jérès, qui était intervenu tout à l'heure de Bandonville, en train de donner des pistes de solutions. La réalisation pourra récupérer sa ligne. Alors je reviens. Et à vous, honorable Paulin Ojani, vous avez évoqué tout à l'heure le système politique. Mais est-ce que si le système politique lui-même est accusé, cela veut dire que les acteurs politiques considèrent que la plupart des cas peuvent être de la manipulation émanant du système. Est-ce que le même système peut-il aujourd'hui mettre en place des mesures efficaces qui peuvent lutter contre ce qu'on a soi-même entretenu hier?
Non, je ne crois pas, mon frère. Je ne crois pas que ce système politique soit même de mettre sur pied un mécanisme approprié de lutte contre la corruption. Parce que lorsqu'on organise une conférence ou un atelier sur la corruption, les invités, ce sont des gens qui sont dans ce système, qui ne sont pas en mesure de se démarquer de la corruption. Et vous les invitez pour les considérer comme étant des formateurs, des formateurs. Et qu'est-ce qu'ils vont donner? Qu'est-ce qu'ils vont transmettre donc à la population ou à l'administration? Je ne sais pas. Donc, dans ces pays, il y a des hommes qui ont quand même une volonté de lutter contre ces fléaux. Mais ces hommes-là sont étouffés tout simplement par le système politique de notre pays. Donc, l'intervenant qui vient de passer, il a raison de dire que la corruption, c'est un fléau mondial. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme chez nous. Chez nous, c'est plus médiocre et même un petit enfant de l'école primaire. Et on lui apprend comment corrompre. Parce que j'ai vu une fois à Kisangani, un enfant de 6e année primaire corrompre un surveillant pour l'examen de fait de cycle primaire. Donc, vous voyez un peu comment nous nageons dans un système médiocre et nous formons des enfants dans ce système et le pays sera comment. Et on engage les gens sur base de critères non objectifs, de tribalisme, des critères de fluence politique. Tous ces gens-là, ils sont redevables donc, devant leur promoteur. Donc il faut donner de l'argent, il faut piquer l'argent dans la caisse de l'État pour corrompre la personne qui vous a donné la promotion. Donc c'est vraiment un système médiocre. Donc la meilleure des solutions, c'est tout simplement de réformer le système. Notre système, d'abord, on commence par le système fiscal. Vous savez que notre système fiscal congolais contient autant de taxes, autant d'impôts, et les taux sont tellement élevés, tout cela nous ramène dans le système de la corruption. Et selon les études faites par mes experts, donc une société qui paye normalement, régulièrement, ses taxes, ses impôts, cette société est appelée à disparaître dans les 2 ans qui suivent, à disparaître. Donc, ça montre à suffisance que le taux est élevé. Donc, il y a l'impunité généralisée. Nous devons faire extirper la justice sous le contrôle des groupes de défiance politique. Nous devons réformer notre administration. Il faut qu'il y ait la transparence dans cette administration. Il faut former ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas suivi d'ailleurs de cursus universitaire normal, et ils sont plongés dans ce système-là, et les autres pensent même que corrompre, c'est un système, c'est un mode de vie, il faut aller par ces mécanismes pour aller au-delà.
Et ce que vous avez dit, c'est important, en estimant qu'il faudrait la refonte du système et extirper notre justice qui ne doit de groupe de pression, permettre à ce que la justice travaille dans l'indépendance. On va rentrer, je crois bien, à Bandundouville, si cette fois-ci c'est bon avec Jires. Vous êtes avec nous? Jires, on a des petits soucis encore. On part à Kamanga avec Adrien. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot et la Méji. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Et vous avez suivi Kevin qui estime que le problème aujourd'hui, ce sont des valeurs qu'il faudrait inculquer à la jeunesse. C'est pas une question aujourd'hui d'organiser une conférence, de convoquer un grand forum autour de la corruption. Maître Licoza estime que la question, c'est qu'il n'y a plus de repères aujourd'hui. Et vous, qui êtes dans le domaine de la justice, est-ce que la justice à elle seule peut-elle constituer un socle aujourd'hui dans la lutte contre la corruption?
Merci beaucoup, Pierrot, de la question. Je pense que c'est ça, même la solution la plus durable, c'est la justice. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est ça même le socle efficace pour lutter contre ce fléau mondial. La corruption est devenue au jour d'aujourd'hui comme un sport national. C'est-à-dire, si quelqu'un ne passe pas par la corruption, donc il se sent très mal. Maintenant, la justice n'est pas dans les conditions actuelles. Il faut placer les pouvoirs judiciaires dans les mêmes conditions que les 2 autres pouvoirs. Je cite le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire les traitements d'un député, les traitements d'un ministre, soit aussi le même traitement d'un magistrat.
à ce moment-là, monde doit se rendre compte que je ne pas droit à l'erreur, à ce moment-là, il sera quand même.
Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, parce que là, la qualité de l'intervention se détériore. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu tout en intervenant, bien sûr.
Oui, oui. Je disais qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les animateurs de la justice sont placés dans des conditions telles que devant une situation. Lui-même se rend compte que je m'attends à 600 000 francs à la fin du mois, mais la personne devant laquelle il est obligé de poser des questions ou bien de poursuivre lui propose, par exemple, 10 000 dollars. À ce moment-là, il n'a pas de choix. Donc, le problème d'abord des traitements des animateurs de la justice, j'insiste, il faut que nos amis de la justice soient placés dans les mêmes conditions que les deux autres pouvoirs.
Alors, maître Adrien, quand vous évoquez aujourd'hui l'amélioration des conditions de travail des acteurs du pouvoir judiciaire, il y a eu quand même des cas où on a vu les membres du pouvoir exécutif ou législatif accusés de corruption. On a eu des débats ici, par exemple, on dit non, dans un tel ministère, il y a eu un trafic d'influence parce que les ministres auraient signé un contrat avec une telle entreprise. Il y a des députés qui ont été accusés d'avoir trafiqué ou soit monnayé l'examen d'une loi ou une motion. Est-ce que le problème de la lutte contre la corruption, c'est une question des salaires, une question de beaucoup de moyens qu'on peut mettre à la disposition de magistrats, ou c'est un problème aussi de l'état d'esprit?
Non, Kéro, parce que vous savez que la justice, c'est comme j'aime toujours le dire, c'est le dernier rempart d'une nation. Lorsque vous voulez avoir une nation développée, il faut avoir une justice, alors une justice juste et équitable. Lorsque vous avez une justice, elle est en mesure d'enrayer n'importe quel fléau qui frappe le monde. Mais lorsque vous avez une justice telle que la nôtre au jour d'aujourd'hui, donc vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose. Il n'y a pas longtemps, nous avions décrié non seulement les conditions socio-économiques de magistrats, mais aussi les conditions de travail. Passez d'abord au tribunal de paix de Kananga. Mais vous, donc, comme aujourd'hui, mercredi, vous pouvez même pleurer pour voir comment est-ce que les gens se sont entassés dans ce qu'on appelle salle d'audience. Et comment voulez-vous qu'en fait de telles conditions-là, que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes? Maintenant, pour finir, je disais que le socle et donc le dynamisme, c'est la justice. Maintenant, par rapport à nos amis de l'administration, là maintenant, il faut revenir sur l'amélioration de leurs conditions.
Oui.
Lorsque nous prenons donc l'administration publique, lorsque nous prenons nos amis BCET, ce sont des gens qui vous travaillent durement, mais au retour, ils n'ont pas presque rien comme salaire maintenant. Un tel monsieur, devant la corruption, il va céder quel que soit son état d'esprit. L'état d'esprit, d'abord,
oui,
c'est mettre la personne à l'aise.
À l'aise dans le conduction de travail qui lui permet. Merci beaucoup, maître Adrien. Vous estimez que la justice, c'est le socle même, c'est la base. Si au niveau de la justice, il n'y a pas des conditions du travail qui permettent à ce que les magistrats et les autres auxiliaires soient dans les conditions de résister à la corruption, ça sera difficile, jusqu'à l'administration. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure aussi à Saint-Augustin Mouindambali, le directeur général de l'OSCEP et l'expert du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Mais rappelons quand même que le numéro de contact pour intervenir dans ces magazines, c'est le 0-81-890-7315. Si vous avez besoin de placer un mot sur les préalables qui puissent accompagner la RDC dans la lutte contre la corruption, votre point de vue est bienvenu. Mais n'oubliez pas aussi que les débats, c'est pas exactement également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des filles et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 10h, 16h, découverte et totale de l'après-midi sur Radio Okapi.
Pauline Wodian, on vous garde en ligne. On écoute le professeur Saint-Augustin Mouindambali, qui est expert du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Professeur, vous avez suivi les uns et les autres. Pensez vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on accuse notre système politique qui est la corruption revient dans les pratiques au niveau de notre système politique. Est-ce qu'on peut être soi-même juge et parti dans ces domaines de lutte contre la corruption?
Merci, Pierrot, pour votre question. Je salue d'abord l'avènement de ce livre qui est écrit par le Saint-Augustin, un collègue que je connais bien, dans la lutte contre la corruption. Nous avons cheminé parfois ensemble, dans même sujet parfois mes formations. Alors, je vous dirais ceci. Le phénomène de la corruption n'est plus à l'étape d'une conférence nationale. Nous avons organisé en 2009 une conférence nationale de lutte contre la corruption en RDC. À laquelle conférence ont participé les forces vives de la nation, société civile, institutions publiques de l'État, et vous avez le monde des affaires. Et une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été publiée à l'issue de ces travaux. Et c'est cette stratégie qu'on est en train de mettre maintenant en œuvre. Et dernièrement, mon service à la demande des résolutions de cette stratégie venait d'être élevé en établissement public, puissant d'une personnalité juridique, alors qu'on dépendait d'abord du ministre de la fonction publique à 100%. Mais on a dit non, pour mieux lutter contre la corruption, il faut un organe semi-indépendant. La structure est là. Et nous allons procéder à son lancement le 24 septembre prochain. Nous avons des mécanismes de lutte contre la corruption effectifs. Nous n'avons pas d'experts. Et puis, quand quelqu'un parle seulement, regardez du côté de la justice, comme fondement, comme l'essentiel, l'abécédaire de la lutte contre la corruption, il se trompe. Il y a la théorie de Fels que nous avons initiée. Nous préparons une thèse de doctorat sur le mécanisme de lutte contre la corruption via le principe de bonne gouvernance et via le texte édicté par, les lois édictées par la Constitution. Il y a la théorie de Fels qui dit ceci. Il y a au départ de tout combat la prise de conscience. Et cette prise de conscience commence par la famille. F, Fels, F comme famille, E comme école, qui va codifier les valeurs non achevées par la famille. Et puis vous avez, après l'école, vous entrez dans la société. Les valeurs diffuses, confrontation avec d'autres valeurs. Mais si ces valeurs sont en train de cheminer, nous allons aboutir, déboucher maintenant sur le ELA, l'État, en tant que pouvoir organisationnel. Donc, pour moi, c'est la famille qui est la fondation de lutte contre les antivaleurs. Si l'éducation du départ rate, si dans votre maison, vos parents vous sont habitués à prendre le bien commun, comme vos biens appartenant à votre propre famille, monsieur, même au sein de la société. Et pour preuve, la justice existe depuis des années. Les prisons sont là. Est-ce qu'on a arrêté les vols? Ah non, les voleurs continueront toujours à exister. Alors, c'est grâce à une éducation du bas. Et quand quelqu'un, un auditeur a dit, c'est un état d'esprit, là j'ai compris au moins. La théorie de l'exponentialité, les salaires, est-ce qu'on améliore les salaires, on va cesser de lutter contre la corruption. On va éradiquer la corruption. Je dis ceci, oui, ça peut diminuer la corruption. Mais ça ne peut pas éradiquer totalement la corruption.
Alors, professeur Saint-Augustin Mouindambali, revenons quand vous avez dit, il y a eu cette conférence sur la corruption qui s'est tenue en 2009 et la stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, en pratique, d'une manière concrète, y a-t-il eu aujourd'hui des cas, des fonctionnaires, des autorités et même de simples citoyens qui ont pu, qui ont été punis, arrêtés, des procès se sont tenus parce que ces gens ont été accusés ou attrapés dans la corruption aujourd'hui. Mais y a-t-il eu aussi des effets positifs de la stratégie, de la mise en place de tous ces mécanismes que vous avez évoqués?
Ah oui, nous avons dissuadé. La bancarisation, c'est une des résolutions. Des résolutions de la stratégie nationale de lutte contre la corruption mise en place par le Premier ministre et par le gouvernement. La vision même du chef de l'État. Quand il dit, je ferai de la lutte contre la corruption, pour moi, est considérée comme un crime contre l'humanité. Comme un crime qu'il faut combattre avec la dernière énergie. La vision est déjà là, mais c'est l'applicabilité qui fait défaut. Mmh. Les dirigeants ne s'approprient pas cette vision en créant ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté à l'endroit même des autorités du pays. Ils s'en foutent éperdument. Le pays est vaste.
Et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais, professeur, si vous estimez que les dirigeants, il y a les gens qui s'en foutent éperdument, c'est qu'on ne peut pas être un juge parti. Je ne crois pas que celui qui s'en fout du fait qu'il ne peut pas s'attaquer à la corruption, estimant que c'est un crime de lèse-majesté, je ne le vois pas aussi mettre le moyen à votre structure pour que vous puissiez effectivement venir combattre ce qu'il lui fait. Dans ces cas, ça va être un combat perdu.
Pierrot, vous avez raison, vous avez été affamé par le service de budget. 13 ans durant, on a eu des budgets de cacahuètes, on ne pouvait pas même fonctionner. Mais il y a eu, de notre côté, la volonté de pouvoir conduire, de pouvoir mener ces combats sans regarder le côté matériel. Mmh. Et pour cela, même des organisations internationales sont venues se réunir au mois de novembre dernier. Il y a eu un forum international, sous-régional de la SADC à Kinshasa, où on a fait l'évolution des états d'avancement du combat contre la corruption en RDC. Nous avons été plébiscités par nos amis. Mais il nous fallait maintenant, c'est ce que nous faisons, une grande campagne, et nous la préparons, nous l'avons
caquée,
c'est-à-dire croisade contre les antivaleurs, l'impunité, pour l'émergence de
la RDC. Je crois que dans ces conditions, ça pourra être bien. Mais rappelons quand même que les moyens sont très importants pour votre structure. Merci, professeur Saint-Augustin Ndambali. Honorable Paulin, on revient à vous. Pouvez-vous placer les mots par rapport à ce qui a été dit par les compatriotes et ce que le professeur venait de dire tout à l'heure?
Merci beaucoup, mon frère. Je crois que le professeur a soulevé des points très, très importants et nous les félicitons pour cela. Je tiens tout simplement à dire que nous devons éviter de faire la confusion entre les discours politiques et la pratique sur terrain. Donc les discours politiques, il y en a toujours. Mais la concrétisation de tout ce que nous disons, ça pose problème. Le professeur peut organiser des séminaires, peut organiser des conférences, des ateliers sur la corruption. Et donc il peut le faire avec sa structure, ça peut aboutir. Mais passer à l'acte, c'est tout un problème. Et lorsqu'il s'agit des gros poissons, c'est-à-dire des politiciens, lorsqu'il s'agit des ministres, des gouverneurs, des députés, des chefs d'entreprise, c'est tout un problème. Donc, pour toucher à ces gens-là. Donc, la volonté politique doit exister pour lutter contre la corruption. Donc, il faut lancer une grande opération, mais propre. Donc, dans notre pays, au sein des entreprises, au sein des services de l'État, de l'administration. Et la population doit lutter également contre la corruption. Donc, on doit se servir d'être victime de la corruption. On doit se servir. Donc, c'est chacun de nous qui doit lutter contre cette pratique. Vous partez dans un service de l'État pour obtenir un document, on te demande de la corruption, tu refuses, tu accuses la personne. Et il faut que la justice soit même d'arrêter la personne. Sinon, votre lutte ne va pas aboutir. Donc, nous devons demander au gouvernement national, au gouvernement provincial, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Assemblée provinciale, au corps judiciaire, à la police, à l'armée, chacun à ce qui les concerne, de bannir la corruption et d'encourager la justice.
Mais la justice,
donc, c'est
voilà.
Comme ça. Demander à ces... Donc, la sanction doit être exemplaire. La sanction, il faut que la sanction soit exemplaire.
Ceux
qui sont en train de corrompre, ceux qui sont en train d'obtenir des corruptions qui ont des moyens et qui distribuent cet argent pour les chèques, ils sont devenus des vedettes. Et ce sont ces gens-là qui sont élus comme étant des députés, ils sont nommés comme des ministres parce qu'ils sont des vedettes sur base de l'argent obtenu d'une façon malhonnête. Donc, l'état d'esprit de chacun de nous doit être là pour les disposer voilà. lutter contre ces fléaux, sinon notre pays ne va pas se développer.
Voilà, on va écouter Madame Josephine qui est à Boston, parce que vous l'avez dit, il faut qu'on se démarque entre le discours politique et sa concrétisation, cela veut dire l'intention de déclarer. On se rappellera que le chef de l'État, à la prise de fonction en début de son premier mandat, avait dit les portes de prison seront ouvertes. Le ministre Luzolo Bambi à la justice avait décrété l'opération tolérance zéro, où on estimait qu'on devrait combattre la corruption par d'abord commencer par il le disait, le couloir dans Carabas, cela veut dire ceux qui ont de moyens, mais qui sont au mieux positionnés. Mais à ces jours, c'est la question de savoir, comme je le disais au professeur tout à l'heure, s'il y a eu un impact sur le terrain. Alors, Madame Josephine, pour vous, comment on peut partir du discours politique à la réalisation, à la concrétisation sur le terrain dans la lutte contre la corruption? Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Pierrot, merci de m'avoir passé la parole. Pierrot, aujourd'hui je vais commencer directement par donner des solutions. Proposer, ce n'est pas donner, je propose des solutions. De un, il faut que l'argent, qui est, bon, c'est le système, le problème c'est le système, les autres ont déjà dit. Il faut que l'argent qu'on offshore, donc, les grands bouanas de Congo qui offshore l'argent, il faut qu'on retourne cet argent au Congo.
Et madame, quand vous dites offshore, c'est qu'il faut expliquer que l'argent ne soit pas... Voilà.
La liste est là, à offshore, à Panama Papers, ça a parlé de la liste, que tous ces gens-là retournent l'argent. Parce qu'on a besoin de l'argent pour lutter contre la corruption. Il faut que Monsieur Luzolo Bambi, la liste qu'il a donnée, qu'on poursuit les gens là qui remettent l'argent. Et quand on va rentrer l'argent dans le système, la corruption doit partir. Il faut que le gouvernement, quand dans un pays il y a la corruption, donc c'est le gouvernement qui a un problème. La population a un problème de confiance du gouvernement. Il faut qu'on change le système, comme ça la population aura la confiance au gouvernement. On a vu ça quand on avait nommé Tshisekedi premier ministre dans le temps. Tout le monde qui avait volé a commencé à retourner les histoires. Il faut que les gens dénoncent la corruption. Vous, Pierrot, quand vous voyez la corruption, vous dénoncez. Alors quand on dénonce la corruption, il faut qu'on arrête ces gens-là. Il faut qu'au Congo, moi j'ai déjà dit, au Congo, il n'y a pas de prison d'abord, M. Pierrot. Il n'y a pas de prison. S'il n'y a pas de prison, les gens qu'on va dénoncer, on va les mettre où? Il faut que le gouvernement pense à construire des prisons en bonne et due forme. Comme ça, quand on va commencer à dénoncer, on va mettre les gens-là dans la prison. Ce n'est même pas les tuer, c'est le mettre dans la prison, comme ça, ils vont voir les changements qu'il y aura avant qu'ils volaient l'argent et après qu'ils aient retourné cet argent. Il faut qu'on change le système. Qu'on change le système à partir de sources. À partir de sources. Dans la prison, les gens qui ont déjà été dans la prison, ils disent que dans la prison, il y a des gens qui ont volé au marché, qui volent sur la rue. Mais les gens qui détournent, par exemple, les gens qui détournent l'argent des enseignants, est-ce que vous avez déjà vu un jour, on montre quelqu'un, oh, c'est celui-ci qui a détourné l'argent des enseignants? Il y a l'impunité. Il y a l'impunité à partir. Il faut que le président et son système montrent l'exemple.
Voilà, merci beaucoup, madame. Là, vous avez évoqué cette question du changement de système et des visions. L'exemple, le président, le gouvernement, et qui, si on veut s'attaquer à la lutte contre la corruption, on s'attaque à ceux qui sont élevés à dignité. Par exemple, ce qui a été dénoncé par l'ancien ministre Luzolo Bambi, qui est actuellement conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Alors, vous pensez que en dénonçant, en transférant, en déférant les dossiers devant la justice, de cette façon qu'on peut arriver à le faire et lutter contre l'impunité. Merci pour toutes ces propositions. Franck, merci d'être avec nous. Vous êtes en séjour à Kinshasa. Nous avons plusieurs fois évoqué cette question de lutte contre la corruption, mais la dimension du changement des systèmes quand même revient aujourd'hui à la surface, parce que plusieurs fois on est revenu sur la sensibilisation, les rôles de la famille, sur la question de la justice. Mais là, on estime, parce que Pauline Ondane le disait, Madame Augustine le dit, qu'il faudrait une refonte du système, de sa conception même, de son leadership, et c'est de cette façon qu'on peut arriver d'une manière efficace à lutter contre la corruption. Votre point de vue, Franck, bonjour, et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour, Monsieur Thuro, bonjour à toute l'équipe et aussi à tous les amis qui se sont déjà prononcés. Je vous suis depuis le début, je crois que la corruption chez nous, il y a un ami qui l'a bien dit au début, c'est presque un mode de vie, c'est une normalité, c'est une pratique qui a ses racines dans le mental de beaucoup de nos compatriotes. Et depuis que je suis là, je l'ai toujours constaté, même dans certains bureaux, dans certains endroits publics, dans des supermarchés. Donc, même là où vous êtes dans vos droits pour un petit renseignement, il faut toujours donner quelque chose qu'on appelle vulgairement ici « maillot, mbon, la carte ». Et parfois, si vous ne vous soumettez pas, les gens trouvent que vous êtes anormal. Monsieur Pierrot, la corruption, quand elle se vit en amont et en aval, on doit déjà reconnaître que le système judiciaire est malade. Et un système judiciaire dans un État ne fonctionne que là où il y a le strict respect des lois. Quand vous avez des lois que vous ne savez pas respecter vous-même, quand vous avez des lois auxquelles vous ne savez pas vous soumettre déjà au niveau personnel interne, donc ne soyons plus surpris de voir que la corruption est en train de prendre la proportion qu'elle a. Et j'ai suivi les interventions des uns des autres, mais je crois que la corruption dont on parle aujourd'hui, c'est un fléau. Il faut vraiment chercher à le combattre comme fléau, à la combattre comme fait. Mais pour moi, il y a toujours les trois milieux. Il y a la famille, les églises, les assemblées, des rencontres interpersonnelles. Il y a les milieux scolaires et universitaires et aussi les milieux professionnels. Mais on ne doit pas seulement s'attaquer à ces milieux tant que l'État qui doit pourvoir aux moyens ne met pas ou ne met pas ses citoyens dans des droits. Quand par exemple un papa, une maman ne sait plus subvenir aux besoins de ses enfants, elle doit aller travailler. Elle sait que le soir, elle doit rentrer à la maison, elle n'a pas de transport, elle doit nourrir 15 enfants, elle doit nourrir 10 enfants, elle travaille quelque part dans un bureau où il y a une caisse. Est-ce qu'on ne se rend pas compte que cette personne serait déjà tentée dans des milieux scolaires et universitaires? Quand par exemple on sait que les enseignants ne sont plus convenablement payés, mais on les expose. Donc on doit d'abord éviter de chosifier les citoyens d'un État. Quand les citoyens d'un État sont chosifiés, c'est alors que la corruption sera là comme une des conséquences. Et depuis que je suis en train de suivre, c'est comme si il y a des spéculations livresques. Donc quelqu'un dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nous devons arriver à le dire que le social de nos citoyens congolais est encore médiocre. Il y a autant d'injustices sociales. On doit rééquilibrer la politique salariale. Pourquoi, à base de quelle logique? Il y a des citoyens qui travaillent du 1er au 30. Ils ont plus de 10 000 dollars. Ils travaillent dans un bureau, ils doivent sortir le matin et aller travailler. Il y en a qui travaillent du 1er au 30, ils doivent sortir le matin et aller dans un bureau ou bien dans une salle de classe, on lui donne moins de 100 dollars. C'est à base de quelle logique? Et quand il y a déjà des injustices comme ça, comment pouvons-nous encore nous étonner si la corruption prend de telles ampleurs? Nous avons des amis qui travaillent ici chez les expatriés. Mais parfois, quand vous passez là pour faire des enquêtes, c'est parfois affreux. Et maintenant, comme j'ai dit, la corruption se vit ici en amont et en aval. Ça doit interpeller chacun de nous, du sommet jusqu'à la racine. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement les politiciens. La corruption chez nous, c'est dans les milieux des affaires, c'est dans les milieux des formations, dans nos familles, dans des assemblées où les hommes se rencontrent. C'est devenu comme une maladie. Et parfois, les gens n'ont même pas honte pour se faire corrompre. C'est devenu comme un état d'esprit. Mais il faut le combattre. Pour le combattre, il faut d'abord chercher à révaloriser l'homme qui doit combattre cette corruption. Mais si l'homme doit le combattre, n'est pas encore mis à sa place, il va le combattre à base de quel atout? Je crois que le problème est là devant nous. Et ça devait vraiment nous interpeller. Et moi, je ne vois pas le développement de notre État avec des plans comme la corruption. Parce que quand on veut se développer, il faut les hommes qu'il faut là où on a besoin d'eux. Il faut un système judiciaire qui fonctionne. Il faut un système d'enseignement très efficace. Il faut que les sociales des citoyens soient vraiment équilibrées. Comme ça, il y aurait des garde-fous partout. Mais si les militaires sont mal payés, les policiers mal payés, les infirmiers mal payés, les magistrats, les enseignants, et la classe moyenne est mal payée, ne voyez-vous pas que on va parler de la corruption pour
de manière abstraite, alors que la plupart des gens vivent dans une certaine précarité.
Voilà, voilà
ce que j'ai pu
apporter,
que je pouvais apporter comme contribution.
Merci beaucoup, Franck, pour toutes ces pistes de solutions. On risque de parler de la corruption d'une manière abstraite. Alors, Félicien, vous êtes à Kinshasa. Comment on peut faire aujourd'hui la corrélation entre ce qui est comme le discours politique et les concrets? Vous avez toujours milité pour un type d'homme nouveau. Il faut échanger l'homme. Mais chaque fois que nous faisons le débat autour de la corruption, disons quand même que les politiques, ils sont dans un camp où tous ces discours semblent être éloignés des politiques. Ce sont des ONG, ce sont des structures. La structure même qui est publique, vous avez suivi le professeur Mwendambali, comment il se casse les nerfs tous les jours pour avoir des pistes et des moyens pour organiser son service. Mais dès lors que la conception du pouvoir public et des politiques sera éloignée du débat sur la corruption, pensez-vous, Félicien, qu'on peut arriver à bout de ces fléaux?
Bien sûr, Fissero, et je commence par vous saluer tous les invités de Radio Okapi et l'invité que vous avez s'il est là. Et moi, comme vous l'avez dit vous-même, j'ai toujours dit que le pays a un problème d'homme. Nous avons besoin de chercher cet homme-là et il faut nécessairement le trouver surtout au niveau des dirigeants. Les jours où un homme ou un groupe d'hommes vont décider de changer les choses dans ce pays, ils les changeront. Prenez l'exemple du Burkina Faso avec Thomas Sankara. Il a fallu que les Occidentaux trouvent que c'était un danger. Ce monsieur-là risque d'amener l'Afrique dans une révolution que nous ne saurons pas contrôler. Et on a utilisé des voies pour l'éliminer et puis changer son entourage pour qu'il opte pour une autre voie. Et qu'on déplore aujourd'hui. Mais chez nous, je vais d'abord commencer par vous dire que Desmond Tutu, monseigneur Desmond Tutu, l'Afrique du Sud avait dit que si tu es neutre en situation d'injustice, c'est que tu as choisi le côté de l'oppresseur. Comment comprendre que tous les pays, dans tous les domaines, nous vivons dans une situation des anti-valeurs, dans une situation de corruption ouverte et visible par tout le monde. Mais ceux qui nous gèrent, ceux qui nous dirigent, sont neutres, comme s'ils ne voient pas. Et puis, nous continuons comme ça, et ça devient un mode de vie. Alors, c'est là où nous disons que c'est eux qui sont responsables de la corruption, parce qu'ils ne trouvent pas des problèmes dans la corruption, ils ne peuvent pas les combattre. Et c'est pourquoi il y a l'impunité. Mais dans l'entretemps, dans les entreprises, nous crions, nous souffrons, les gens sont en train de crier, vous écrivez des lettres partout, chez tout le monde, personne ne réagit. Les chefs qui sont là, dans l'entreprise, ils peuvent voler, piller, tout ce qui fait des incompétences, tout. Personne ne réagit. C'est-à-dire que c'est vraiment consacré et que la corruption, c'est pas un problème, les antivalets, c'est pas un problème dans ce pays. Donc, ceux qui nous disent sont là. Alors, quelle est la solution? Un état de droit.
Un état de droit.
Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas d'un état de droit dans ce pays? Aujourd'hui, on est à la cité de l'OIA. C'est pour s'opposer toujours à un état de droit. On ne veut pas que nous soyons dans un état de droit où tout le monde réponde devant la loi, où tout le monde est égal devant la loi. On ne veut pas. C'est ça le problème que nous avons. Tant que nous ne sortirons pas de cela, comme on dit, c'est mes prédécesseurs, tant qu'il n'y aura pas changement de système politique, nous ne pouvons même plus parler d'autres solutions. Par rapport à l'éradication de la corruption ou des antivalets, il n'y aura pas pire. La seule voie, c'est un état de droit et c'est le changement des systèmes politiques qui amènera la bonne gouvernance. Et nous en sortirons que de cette façon-là.
Merci beaucoup, Félicien. On est à Lubumbashi avec vous, Maître Sonville. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a le rôle de la population, de la justice, l'état des droits, la volonté politique et tout cela. Il faut aller au-delà de tous les discours, si possible, pour lutter contre la corruption. Votre point de vue?
Pierrot, bonjour d'abord. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs. Mon point de vue est, et je me ravis d'abord à tous les points de vue de notre professeur, puisque vous êtes en Europe, vous-même, vous venez de suivre, que personne ne défend cette corruption. Tout le monde la condamne. Et moi, je dirais pour compléter aussi que les droits fondamentaux de l'être humain, M. Pierrot, doivent être fondés sur les attributions de la personne humaine. Pourquoi je dis cela, M. Pierrot? Si les attributions, si les attributs de la personne humaine sont bafoués au pied, il ira dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, moi j'estime que la corruption elle est institutionnalisée à tous les niveaux. Lorsque vous ne mettez pas le travail dans de bonnes conditions, les magistrats eux-mêmes dans de bonnes conditions, j'estime que rien ne se passera, du bien. Or, le chef de l'État, à un moment donné, il avait dit fini la récréation. Moi j'estime que, par contre, sur la récréation, qui avait continué. Parce que jusqu'à présent, nous vivons encore cette récréation-là. Pourquoi je le dis, M. Pierrot? Je peux l'illustrer par un cas typique. Si vous arrivez aussi à Mumbassi, au niveau de l'Institut Talama, il y a un dos d'âme. Vous verrez au moins 8 agents de la police, de circulation, qui sont flanqués là-bas, en train de rationner la population, comme s'ils n'ont pas régulé la circulation. Dès qu'un chauffeur arrive là-bas, il soutire les clés de contact et il rançonne en créant des contraventions non fondées. Pourquoi ils se donnent à cette sale besoin-là? Puisque leur solde est insignifiant. Puisque vous ne comprendrez pas plus avec moi, c'est un policier à qui on donne 60 000 francs, 70 000 francs, et il demande de se mettre en cours de route pour réguler la circulation. Et comment est-ce qu'il va vivre? Et si nous sommes suivants en profondeur, la justice doit se saisir d'office de certains cas. Puisque la justice est en train, nous sommes en train de voir des bâtiments qui sont en train de pousser dans la forêt de Katanga. Mais si vous posez la question, ce bâtiment appartient à qui? À un fonctionnaire de l'État. Ce fonctionnaire de l'État, là, vous touche 100 000 francs congolais. On vit aussi de la justice congolaise. La justice congolaise, pourquoi je parle, qui saisit de ces cas palpables pour essayer un peu d'endiguer cette corruption? Puisque dans d'autres cieux, on se saisit directement et on invite les messieurs les concernés. Où est-ce que tu as trouvé cet argent pour ériger un bâtiment pareil? Au sens où on sent que ton salaire est réduit.
Alors, Maître Sonville, on vous garde en ligne. Maître Sonville, vous étiez avec nous et vous évoquiez là l'exemple de comportement des fois des policiers qui créent des attroupements, des embouteillages au niveau des carrefours avec l'idée des rançonnements. Mais vous l'avez dit, les policiers sont victimes tout simplement de leur traitement social. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être exposés à faire ce travail dès lors que les conditions de vie ne répondent pas aux besoins qu'ils vont mettre en ligne.
Oui, M. Pierrot, c'est pourquoi j'ai dit que la corruption, elle est institutionnalisée. Si vous vous rendez même dans une entreprise publique telle que la Chétanie, ce sont les cadres-là qui sont dans les comités de gestion qui vivent mieux. Et les agents totalisent même 18 mois d'un paiement. Et cet agent-là a la famille. Comment il va vivre? On expose à la corruption. Et dès qu'il commet cette infraction-là, on l'arrête, on le vire. Aussi longtemps que son ex se trouve dans le comité de gestion, vous ramassez de l'argent du jour au jour, sans même changer à la population. Si aujourd'hui nous nous rendons dans des différentes prisons parsemées à travers la crise démocratique du Congo, vous trouverez que ce sont des petits peuples pour des frères d'aînés qui sont gardés dans des prisons. Alors la justice, pour le moment, c'est une épreuve de force. Lorsque vous rendez à la justice d'abord, pour rester quelqu'un en justice, on vous demande de l'argent. Or, c'est une intention, c'est une condition. La plainte a toujours été gratuite. Dès que vous n'avez pas l'argent, on ne sait pas vous rendre justice. Ça, c'est un fait. Et dès que vous arrivez là-bas, même si vous avez raison, les gens là, les gens forts, arrachent la liberté provisoire au prix de l'argent, au prix des cautions. Et on le voit circuler librement, même s'ils ont violé, ils sont en train de circuler librement. On vit aussi des procureurs généraux, des procureurs de la République, ils ne savent rien faire. Si nous allons mettre au niveau de la police, il y a des OPJ. Les OPJ sont mis dans quelles conditions? Même, c'est au niveau des enquêtes. Ils n'ont même pas ça veut dire que l'État ne reverse même pas les subventions pour procéder aux enquêtes. Et vous demandez à ce que les enquêtes soient faites. Et les enquêtes seront faites dans quelles conditions et de quelle manière. Voilà comment est-ce qu'on expose les peuples congolais à une certaine corruption pour survivre. Aujourd'hui, nous avons la rentrée scolaire. Les gens ne sont pas payés. Vous avez vu même vous-même que c'est une rentrée qui est tout totalement timide. Pourquoi? Mais on n'a pas d'argent. Alors, au moment où il est dans son service, dès que quelqu'un se présente avec l'argent, il prend. il prend pour simple
de pouvoir pallier et combler. Et vous avez raison, parce que vous avez évoqué l'externalisation dans les termes qui Maître Nicolas le disait en début d'émission, que les conditions dans lesquelles on travaille, les lois, les procédures font que les gens ont tendance à recourir à des chemins détournés pour pouvoir accéder aux services. Et pour vous, il faut améliorer les conditions de vie des gens. Avant d'écouter Pacifique qui est avec vous à Lumbashi et Maître Sonville, on fait un pont à Isiro, le problème au Djané. Vous avez suivi les uns et les autres. Pourriez-vous placer un mot? Parce que tout à l'heure, Félicien a beaucoup insisté sur la volonté politique, mais qui doit résider dans l'idée d'un changement radical, d'une refonte du système, d'une construction de l'état du droit comme le fondement solide pour la lutte contre la corruption. Placez un mot et puis on va revenir à Pacifique.
Merci beaucoup. Je crois que tous les intervenants ont soulevé des points très, très importants. Mais ce qui est important également, c'est de retenir que la corruption dépend d'une personne à une autre. Ça dépend d'une éducation d'une personne à une autre. Parce que ceux qui sont des ministres, ceux qui sont des députés, ceux qui sont des gouverneurs, ceux qui sont des directeurs généraux dans des entreprises, tous ces gens-là, parmi eux, il y a des ceux qui reçoivent la corruption. Et ils sont aussi des corrupteurs. Mais ça se passe comment alors qu'ils ont les moyens nécessaires? Mais il y a un monsieur qui n'a pas de moyens, mais qui refuse la corruption. Donc il y a des gens qui sont comme ça, qui ne sont pas du tout dans ces systèmes, dans ces fléaux, qui sont là pour lutter contre ces fléaux, malgré le manque de moyens. Et quand on me dit que non, voilà, les fonctionnaires, ainsi de suite, ils sont en train d'accepter la corruption tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens, qu'ils n'ont pas de salaire consistant, c'est bien, mais ce n'est pas ça nécessairement. Parce que parmi ces fonctionnaires, il y a des gens qui ne reçoivent pas les points de vin. Ils sont là. Mais ils vivent. Mais parce qu'on en parle même de campagne, il faut qu'on aille jusque dans des églises. Vous savez que dans notre pays, même il y a des églises là où il y a la corruption. Pour accéder à un poste tel, il faut corrompre. Il faut, pour être placé dans telle église ou dans telle ville, il faut corrompre. Donc, ça devient un système, un mode de vie pour nous Congolais. Donc, l'État doit prendre les devants, l'État congolais. C'est-à-dire, ici, les dirigeants de notre pays, ils ne doivent pas se limiter à des slogans qui n'ont pas de base solide. Et je crois pour ma part que l'ancien ministre de la Justice pouvait faire mieux si il n'était pas dans un système qui le bloque. Donc, ce monsieur-là, il avait une bonne volonté d'aller plus loin.
Mais malheureusement, le système ne permet pas. Alors, écoutons Pacifique et puis le dernier auditeur, on revient à vous pour la conclusion. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi, nous étions tout à l'heure avec Maître Sonville. Bonjour, Pacifique.
Bonjour, Pierrot. Je salue également à tous mes prédécesseurs sur ce sujet. Je voudrais tout simplement dire, Pierrot, que la corruption est un fait social, comme la sorcellerie, comme n'importe quelle maladie qu'on peut facilement guérir si on a la volonté. La corruption, c'est un vice, ce n'est pas une vertu. Je me pose la question de savoir, Pierrot, le gouvernement de la République démocratique du Congo a la politique nationale de lutte contre la corruption réellement, si ça existe, et alors c'est inefficace, et ce sont eux-mêmes qui sont des acteurs majeurs. Parce que quand nous voyons, quand l'ancien ministre de Justice, M. Lubambi, a dit qu'il y a 15 milliards qui passent par la fraude, par la corruption, des choses comme ça. Et pourtant, nous avons un budget de 7 milliards. Alors, posez-vous la question, depuis qu'il avait déposé sa plainte au niveau de la justice, qui a été arrêté, qui est-ce qu'on a jugé? Pour donner un exemple, personne. À mon sens, personne n'a été jugé parmi les grosses façons, parmi les grosses pointures que nous connaissons en RDC. Des gens ont suffisamment d'argent qui mettent ça ailleurs, en dehors de notre pays, qu'on est en train de le citer par-ci, par-là. Nous ne voyons pas tout ça. Et tout ce qu'on est en train de nous dire là, nous pensons que c'est tout simplement du folklore et ça ne peut pas nous aider pour que nous puissions avancer. Allez, allez. Les politiciens congolais, je vous assure qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas le courage de le faire parce qu'eux-mêmes s'y trouvent dedans. Je prends un exemple, Pierrot. le ministère de l'économie, et qui venait de signer, je ne sais pas, un arrêté interdisant l'importation des ciments, sucre, ferron et consorts. Qu'est-ce qui va s'appliquer maintenant, par exemple, ici au Katanga? Ça sera le contrat programme. Et ce contrat programme encouragerait encore plus la corruption et la fraude. Pourquoi? Parce que vous devez donner la quantité, vous devez, et ça doit être décidé là-bas. Et pas pour que chaque opérateur économique fasse sa commande, normalement, à un bon niveau, il faut des cafouillages. Et en faisant ces cafouillages-là,
c'est ce que je disais tout à l'heure au professeur Mouindambali qui représente le pouvoir public dans cette structure de lutte contre la corruption, qu'on ne peut pas être soi-même jugé parti dans ces débats. C'est là où ça devient un problème, vous avez dit. On ne peut pas mettre de mécanisme qu'on ne sait pas respecter soi-même, et c'est très difficile. Et puis on écoute le dernier auditeur. Maurice, vous avez eu l'occasion de suivre les uns et les autres. Pour vous, quelle est la ligne plus efficace aujourd'hui qui puisse permettre à la RDC de lutter contre la corruption?
Merci Pierrot de m'avoir associé au débat. Je pense que l'auditeur de tout à l'heure en fait, a dit presque l'essentiel. C'est-à-dire que les problèmes relèvent de la volonté politique. Or, la corruption, ici, ça représente pour ce régime au pouvoir une libération indispensable qui fait tourner la machine. C'est-à-dire que dès lors qu'on va combattre la corruption, c'est une manière, en fait, d'un moteur, en fait, un libération, et voyez les conséquences. Donc, c'est une manière de dire qu'on ne saura pas combattre parce qu'il manque de volonté. Vous avez cité nommément M. Luzolo Bambi, qui s'est prêt comme un petit enfant de la rue. Il a dit ceci. Vous pouvez parcourir toutes les prisons de la République. Je ne pense pas que vous trouverez 5 personnes condamnées de corruption. Il ajoute ceci. Lorsque vous allez dans nos différentes prisons, vous ne trouverez que des petits voleurs de chèvres, des petits voleurs de téléphones cellulaires et les voleurs, ceux qui détruisent les tissus économiques, ceux qui pillent quotidiennement les ressources de ce pays, sont libres, roulent carrosse et ils ne sont jamais inquiétés pour la simple raison qu'ils sont du régime. Alors, les solutions, je l'ai toujours dit à travers cette émission, n'est pas que par cette alternance. Comme nous sommes déjà à 2 mois et demi de règne de la Kabylie, je pense que nous devons aider ce régime à partir
pacifiquement. Voilà, pour vous, il faut des nouvelles autorités, mais il y a des termes peut-être qui je ne crois pas qu'il existe, peut-être que par vous qui l'avez prononcé. Et pour vous, l'alternance reste la seule voie pour lutter contre la corruption. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux qui vous êtes revenus sur la réponse du système, le changement de mentalité, vous êtes revenu sur l'amélioration des conditions de travail, le renforcement de la justice, la volonté politique, voilà autant de propositions. Malheureusement, honorable Odiane, vous n'avez que peut-être 20 secondes pour placer le dernier mot juste avant qu'on puisse céder le micro à autre chose. Rapidement, un mot.
L'État congolais, la population, tout le monde doit se liguer pour lutter contre la corruption et devenir un fléau dans notre pays.
Merci beaucoup, Paul Emojane, député provincial à Isiro, chef lieu de la province du Haut-Uele. Merci de votre présence dans cette émission. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Merci à l'équipe des productions. Nicolas Kapanda était à la mise en monde. Julie Fézabongonda a géré le standard et a réalisé ce magazine. Kéfiro et la Mégie a eu le plaisir de vous présenter sous la supervision de Julien Amoni. Parole de l'auditeur, on se retrouve demain à 11h02 heure de Kinshasa pour une nouvelle aventure. Merci et bonne journée.